Radio Classique, Grand Piano.
Les hommes politiques, ancien gouverneur, ancien ministre, Constantin Chalamana et celui que Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Monsieur Chalamana, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Meilleurs voeux, hein, pour cette année 2011.
Je vous réciproque les mêmes voeux.
Merci. Monsieur Chalamana, ne pas confondre avec Chalamana, la chanteuse. Alors, avec vous, monsieur Chalamana, nous parlerons de votre personne, de votre parcours dans l'administration, dans la territoriale. Vous nous parlerez aussi des quelques souvenirs que vous gardez de votre passage dans certaines provinces que vous avez eu à gouverner. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une brève biographie de vous. Vous êtes né où et quand?
Je suis né au Kassai, dans le district de Tilenge, province du Kassai oriental.
En quelle année?
En 1933.
C'est là que vous faites vos études primaires et secondaires au Kassai oriental?
Oui, oui, et puis au Kassai occidental, où j'ai fait les études agronomiques.
Vous avez continué l'institut supérieur en agronomie toujours?
Oui, à l'agronomie, oui, à la Cadillac Camp Fondé.
Pourquoi avoir choisi l'agronomie?
Bon, écoutez, parce que d'abord, en ce moment-là, mes parents étaient des paysans. Moi-même, de temps en temps, je les accompagnais dans leurs champs. C'est comme ça que j'ai beaucoup aimé l'agriculture. Et quand j'ai eu l'occasion de continuer mes études, j'ai préféré faire des études agronomiques.
Vos parents étaient paysans. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Bon, je ne veux pas dire que j'ai grandi dans de mauvaises conditions. J'ai juste grandi dans de bonnes conditions. Disons qu'il n'était pas très très riche, mais il n'était pas pauvre non plus.
Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants, monsieur Chalamana?
De 5 enfants.
Vous êtes aîné ou...
Non, je suis le cadet. Je suis le cadet et je suis le seul garçon.
Vous avez été trop gâté apparemment.
Oui, c'est vrai. J'ai été très gâté parce que je suis le seul garçon. J'étais aimé de tout le monde, hein, mes parents, mes sœurs.
Votre nom a une signification particulière,
Mona. Oui, c'est-à-dire que chez nous, c'est le Benetitolo, parce que moi je suis Mouluba de Benetitolo. Lorsque une famille a des enfants qui se suivent et qui sont du même sexe, si le cinquième est de sexe opposé, il porte le nom de Tchala. Alors, le cadet, c'est l'enfant. Alors, on m'appelait toujours Tchalamoana, Tchalamoana. Donc, Tchala le petit.
Alors, M. Constantin Tchalamoana, après vos études à la Cadillac, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Oui, c'est ça.
Vous avez travaillé dans l'administration coloniale?
Oui, j'ai travaillé dans l'administration coloniale, dans plusieurs territoires du Kassai.
Votre travail consistait à...
Comme le travail de l'agronome, c'est-à-dire que j'avais un secteur agricole où j'étais responsable et je contrôlais les champs, les plantations. Et là où moi j'étais, je contrôlais surtout les champs de culture vivrière.
Après l'administration coloniale, en 1960, lorsque le Congo accède à son indépendance, vous êtes élu député national.
Oui.
Comment vous vous êtes retrouvé dans la politique? Pourquoi ce changement de l'administration à la politique?
Et en 1958, lorsque le mouvement a commencé, j'ai estimé que c'était bon pour moi de militer pour la liberté. Donc, j'ai demandé ma mise en disponibilité pour commencer la politique. Et j'ai commencé la politique avec Patrice Lumumba. C'est même Patrice Lumumba qui a dactylographié ma lettre de demande de mise en disponibilité. Oui, oui, oui. Alors, j'ai adhéré au MNC. J'ai commencé à installer, à implanter le parti MNC dans le district de Cabinda. Et puis, en 60, les élections, je me suis présenté comme candidat et j'ai été élu. J'ai été élu comme député.
Là, nous parlons déjà de votre parcours politique. Après la députation, on vous retrouve dans le gouvernement.
Oui.
Comme ministre de l'Agriculture.
Oui.
En 1962.
Oui.
C'était dans le gouvernement de qui?
De M. Adoula.
Mais pourquoi vous avez quitté la députation pour aller au ministère?
Non, ce n'est pas que moi j'ai demandé de quitter la députation.
On vous a nommé ministre?
Oui, on m'a nommé. C'est mon parti qui m'a présenté auprès du premier ministre.
Vous étiez obligé d'accepter accepté ce poste?
Non, je n'étais pas obligé, mais j'ai accepté ce poste parce que je pouvais quand même aider aussi mon pays au gouvernement.
Ben, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez occupé cette fonction pendant 2 ans, de 62 à 64?
D'abord, vous savez, nous avons connu des problèmes très sérieux en 60. Tous les blancs, tous les techniciens blancs étaient partis. Nous étions restés sans techniciens, sans des personnes compétentes pour prendre la relève. En ce moment-là, l'INERA, ce qu'on appelle aujourd'hui l'INERA, dépendait du ministère de l'Agriculture. Tout était fermé. Yangambi était fermé. Toutes les stations étaient fermées. Rien ne marchait. Il fallait sauver l'INERA pour que l'agriculture puisse marcher. J'ai pris l'initiative de prendre contact avec les Européens qui étaient partis pour que nous puissions avoir des techniciens, des agronomes, des ingénieurs agronomes, des spécialistes dans ces domaines-là. J'ai réussi à obtenir qu'une conférence se tienne en Italie. Et cette conférence réunissait 5 pays européens. L'Italie, la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Cette conférence a dû obtenir que ces pays-là nous envoient des techniciens. C'est comme ça que l'INERA a réouvert ses portes.
Donc c'est dans votre axis.
Oui, c'est dans mon axis. Mm-hmm. C'est moi qui ai pris cette initiative-là. Et nous avons relancé, parce que tout était fermé, nous avons relancé les paysans, les paysannats. Nous avons pu trouver un peu à manger, alors que il y avait la guerre partout, mais il n'y avait pas de faim partout. Si les gens ont fui, ils ont fui la guerre. Ils n'ont pas fui pour parce qu'ils devaient venir ici chez eux à manger sa nourriture ici. Au contraire, même ici, ils recevaient la nourriture qui venait de l'intérieur. Donc vous voyez, à notre époque, on n'a pas senti la faim. On avait la guerre, mais la faim n'existait pas. C'est après seulement, quand nous on est parti, qu'on a alors commencé à avoir des problèmes.
Alors, M. Constantin Chalamona, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de jeunes se découragent de faire l'agronomie parce qu'ils se disent qu'après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas de boulot pour eux. À votre époque, comment ça se passait? Les gens voulaient faire l'agronomie?
Oui, d'abord parce que ça soit à l'université ou dans des écoles secondaires, ceux qui terminaient l'agronomie étaient mieux payés que ceux qui faisaient des études pour la bureaucratie et autres. Il n'y avait que les agronomes, les médecins, les magistrats, oui, voilà, je vous le dis, les magistrats. Parce que pas tous les juristes comme tels. Ceux qui travaillaient ailleurs n'avaient pas beaucoup de. N'étaient pas tellement bien traités. Mais les juristes qui étaient dans la magistrature, bon, ces 3 places-là étaient très bien soignées. Voilà pourquoi les gens préféraient choisir ces spécialités-là. Et vous savez que. Quand on terminait, vous entrez dans l'administration. Pendant que les autres commençaient par l'échelon inférieure, cinquième classe, c'est adjoint de ceci, de cela. Mais ceux qui terminaient ce genre d'études commençaient directement avec la première classe, et pas comme adjoint. Et même pour être engagé, on n'avait plus besoin de faire des tests, alors que les autres, pour être,
engagé.
C'est ça. Donc, on était favorisés.
Et donc, après le ministère de l'Agriculture, vous êtes réélu encore député national.
Oui, en 1965, j'ai été réélu député national. Je suis venu ici travailler comme député. Et quand le président Mobutu a pris le pouvoir, après il a dissous le Parlement, à ce moment-là, comme j'étais un ancien fonctionnaire, j'ai repris l'administration. Et dans l'administration, j'ai changé de place. Au lieu d'être dans l'agriculture, je suis passé dans la territoriale.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Le grand témoin, le plaisir de vous présenter aujourd'hui Constantin Chalamwana. Il est homme politique, ancien gouverneur, ancien ministre. Monsieur Chalamwana, on parlait déjà de la territoriale. Donc, après la députation, le président Mobutu a dissous les parlements. Vous vous êtes retrouvé à nouveau dans l'administration, mais cette fois-ci dans la territoriale.
C'est bien ça, bien ça.
Par où vous avez commencé votre travail dans la territoriale?
J'ai commencé comme chef de quartier. Comme sur des quartiers, et après, comme administrateur de territoire assistant, et puis conseiller d'administrateur de territoire, et après conseiller de district assistant, conseiller de district, et puis vice-gouverneur, et après vice-gouverneur, gouverneur.
Oui, quand vous parlez de chef des quartiers, c'était où, à Kim ou bien au Castelli?
Non, c'était ici à Kim, j'étais chef des quartiers à Limété.
Oui, et puis chef de district, c'est ça?
Non.
Administrateur du territoire.
Assistant, commissaire des zones assistant, si vous voulez.
À l'époque, c'était commissaire des zones assistant.
Maintenant, c'est administrateur des territoires assistant.
Où?
À Limété, et puis ici à Langombe. Et après l'assistant, j'ai été nommé comme administrateur des territoires à Kasangoulou.
Dans le Bas-Congo?
Dans le Bas-Congo. Et puis...
Vice-gouverneur?
Non. Et puis, de Kasangoulou, j'ai été unité pour le territoire de Tchela.
Toujours comme administrateur?
Comme administrateur de territoire. Et après ça, j'ai été nommé commissaire de district assistant au Cataracte, en Bazangou. Mm-hmm. Et après ça, commissaire de district à Tchela, de nouveau, à Tchela, et après Tchela, à Kenge, au Congo. Et c'est au Congo où j'ai été nommé vice-gouverneur. J'ai eu le titre de vice-gouverneur et puis envoyé à l'Équateur. Et de l'Équateur, au Bas-Congo, de nouveau. Et après ça, on me nomme gouverneur.
Vous avez occupé toutes ces fonctions parce que vous, après la dissolution du parti, plutôt du Parlement, le président Mobutu avait interdit au parti politique de fonctionner, ce qui était l'époque du parti unique.
Oui.
Et donc vous étiez tous obligés de faire partie du MPR.
Oui, tout le monde. Mm-hmm. On disait que c'est depuis la naissance. Bien avant la naissance, quand vous êtes encore...
Dans le ventre de votre mère ou dans les seins de votre mère, vous êtes déjà membre du MPR.
Vous êtes déjà membre du MPR. Donc, quand vous êtes né, vous êtes membre du MPR.
Oui, au sein du MPR, là, vous avez occupé une fonction particulière, quelqu'un,
oui,
au sein du parti.
Mais
vous étiez membre comme tout le monde, ou bien...
Non, mais d'abord, une fois que vous devenez titulaire, vous devenez automatiquement président du parti dans votre territoire ou dans votre province. Donc, comme assistant, je n'avais pas un titre, j'étais membre. Mais une fois devenu titulaire, je deviens aussi président. Quand on était le gouverneur à ce moment-là, on était d'abord président du parti, puis gouverneur après.
Et donc,
jusqu'au moment où le président a libéré, supprimé la chose qu'il avait prise là-bas, les gens étaient devenus libres de. Donc, quand il a parlé de
multipartisme,
excusez-moi, oui. Alors, à ce moment-là, on n'était plus obligé d'être à la fois gouverneur et président du parti. À ce moment-là, non. On devenait seulement gouverneur, on était resté gouverneur et.
On pouvait faire partie de notre mouvement politique.
Non, 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 on ne pouvait pas faire parce que jusque là, il y avait toujours.
Le MPR
n'était pas parti État. Mais c'est le président qui nommait les gouverneurs. Bon, lui-même était du MPR. Donc, vous ne voyez pas le président nommer quelqu'un d'autre qui n'est pas du MPR.
Mm-hmm.
C'est normal.
Alors, lorsque vous êtes rentré dans l'administration, qu'est-ce qui vous a poussé à aller à choisir la territoriale?
Vous savez, l'agriculture, l'agronomie et la territoriale, ce sont deux fonctions qui, ensemble, forment une seule fonction. Donc, quand vous êtes administrateur de territoire, vous êtes responsable numéro un du travail de l'agriculture. L'agronome dépend de vous. Donc, même quand j'étais agronome, je dépendais de l'administrateur du territoire. Ça fait que je voyais comment il travaillait, et finalement, je me suis dit, je trouve être administrateur comme quelque chose de bien, parce que même quand je suis administrateur, je reste toujours agronome. Parce que les gens dépendent de l'administrateur de l'État. C'est lui le numéro un.
Je devais peut-être commencer par là. Qu'est-ce qu'on entend par la territoriale, M. Constantin Tchalamana?
Merci beaucoup. D'abord, la territoriale, c'est, si vous voulez, une fonction qui représente tout le pays.
C'est-à-dire
que tout ce qui se passe dans une entité relève de votre autorité. Que ça soit l'agriculture, que ce soit les routes, que ce soit la santé, que ce soit l'économie, bref, que ce soit le développement du pays, tout dépend de la territoriale. Donc, si vous voulez bien travailler pour votre pays, un égoïste dirait qu'il faut d'abord être territorial. Mais moi, j'ai dit non, ce n'est pas qu'il faut être d'abord territorial, parce que le territorial ne fera pas tout, mais le territorial doit s'occuper de tout.
Est-ce qu'il s'occupe pas seulement de son entité? Comment il peut s'occuper de tout?
Dans son entité, parce que le développement, c'est partout, c'est dans les territoires, c'est dans la chefferie, c'est dans les districts. Donc, quand vous êtes dans votre entité, vous, un territorial, vous n'allez pas dire, moi, mon travail, c'est de faire payer les taxes. Non, vous n'allez pas dire, moi, mon travail, c'est... Non, votre travail, c'est d'entretenir les routes. Votre travail, c'est de construire des ponts. Votre travail, c'est...
Il faut avoir des moyens pour faire tout ça.
Bien sûr, il faut avoir des moyens. Tout comme certaines choses demandent des moyens et d'autres demandent plutôt le savoir-faire. Je vais vous donner un exemple, le Maniema. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais le seul nouveau gouverneur qui l'avait trouvé rien.
Allez-y, c'est ça que nous avons appris. Allez-y.
Ok. Écoutez, on a divisé la province de Kivu en trois entités, trois nouvelles provinces. On les a nommées, nous étions trois. L'ami qui est allé au sud de Kivu, comme celui qui est allé au nord Kivu. Ils ont trouvé dans la caisse de l'État de l'argent. Ils ont trouvé du personnel. Ils n'ont pas créé pour monter leur administration. J'étais le seul qui qui est arrivé chez lui et qui n'a rien trouvé. Je vous dis qu'il n'a rien trouvé. Et même les amis de Banyama, du moins ceux qui ont vécu à l'époque, ne vont pas me contredire. Ils n'ont rien trouvé. Même pas le personnel au niveau de la province, ceux qui devaient construire la province avec moi. Nous nous sommes retrouvés à Bravo pour nous partager les biens et les hommes. La province, la nouvelle province de Goma, du Nord Kivu, a trouvé du personnel, a accepté, a trouvé les gens qui ont accepté d'aller à Goma. Moi, je m'excuse, ce n'est pas pour dénigrer de personne. Moi, j'aime beaucoup les Maniama. J'étais le seul, je suis allé seul au Maniama. Les originaires du Maniama, fonctionnaires et agents qui travaillaient à Bukavu, ont tous refusé de venir avec moi. Ça, personne ne pourra me contredire.
Ben, comment vous avez fait alors pour vous en sortir?
Pour m'en sortir, j'ai dû faire les rapports au gouvernement ici. Et c'est le gouvernement central qui a dû m'envoyer du personnel pour former l'administration provinciale. C'est le gouvernement central ici qui a dû m'envoyer du personnel.
On peut dire que vous êtes le tout premier gouvernement de la province du Maniema.
Mais oui, c'est moi qui est qui.
En fait, vous avez créé
oui.
La province du Maniema.
Oui. Oui, c'est moi. Je suis arrivé. Je n'avais même pas un lit pour dormir. Ils sont ici, les ressortissants du Maniema. Heureusement, ils ne sont pas morts, ils sont encore ici. Qui ont dû me prêter des chaises et des fauteuils, des tables, des casseroles, des assiettes pour que je puisse manger. Ils m'ont prêté, parce qu'il n'y en avait pas. Je suis arrivé dans la résidence qui devait être la mienne, là où qui était pour le commissaire de district. Il n'y avait rien, madame. Il n'y avait rien. Ce sont quelques ressortissants, quelques notables du Maniema.
Qui vous sont venus en aide.
En m'apportant un salon, une casserole, une assiette, etc.
Et vous prenez la tête de cette province pendant combien d'années?
Je suis resté là-bas pendant deux ans et demi. Et il y a une résidence au Maniema. La même résidence que j'avais trouvée, dans un état impitoyable. Aujourd'hui, c'est devenu résidence du gouverneur. Et vous pouvez,
c'est pas ça, vous?
Je dis bien, vous pouvez demander au gouverneur qui est là, je ne le connais pas. Vous pouvez demander aux gens du Maniema. Ils vous diront que c'est M. Tchala qui a modifié cette résidence-là et qui était devenu pratiquement une nouvelle maison. Vous pouvez aller au Maniema. J'avais laissé d'immobilier que on peut trouver dans des maisons de luxe ici. Je ne sais pas si vous avez connu une dame, Madame Monique, qui habitait sur le boulevard 30 ici. C'est elle qui meublait les maisons des autorités, les maisons des gens bien ici et tout ça. C'est elle qui est allée meubler
La résidence du
Maniema. C'est elle qui est allée meubler cette résidence-là. Et je crois que, je ne veux pas citer les noms des autorités de l'époque, quand ils arrivaient à Kindu, mais ils étaient surtout ceux qui avaient connu Kindu du temps du civique et tout ça. Mais ils s'étonnaient.
Qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qu'on avait apporté de nouveau dans Kindu?
Oui, dans la province, je ne parle pas seulement de Kindu, moi je parle de la province. Quand je suis arrivé à Kindu, en parlant avec des amis, des gens, des notables, on me dit, monsieur le gouverneur, vous êtes arrivé, mais nous avons chez nous ici un problème. Nous sommes enclavés. Pour visiter certains de vos territoires, le Vutu, Kunya, vous devez prendre l'avion, aller à Kisangani. De Kisangani, votre collègue là-bas peut vous prêter un véhicule, alors vous pouvez venir à Lubutu. Mais de Kindu, par route, vous ne pouvez pas. Parce que nous n'avons pas de route. Je leur ai dit, moi, jamais je ferai ça. Jamais, pour visiter un de mes territoires, je dois passer
par Kisangani.
Une autre province. Madame, ce n'est pas pour me vanter. Je dis, je donne 2 mois pour que je puisse visiter mes territoires à partir de Kindu. Eh bien, je vous dis, 2 mois après, j'ai visité Lubutu à partir de Kindu. Par route, je suis allé à Lubutu. À partir de Kindu, par route, je suis allé à Kasongo. Je suis allé à Kabambare. Donc, j'ai visité tous les territoires à partir de ma province. à l'époque, un responsable européen du coton est venu de Cabinda, est venu à Kindu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? C'était pour la première fois qu'il arrivait à Kindu. Il m'a dit, mais quand j'ai demandé de renseignements pour qu'on puisse m'indiquer la direction, on m'a dit, vous partez de Cabinda. Vous trouverez toujours la route est mauvaise. Mais dès que vous arrivez là où vous allez commencer à trouver que la route est bonne, dites-vous bien que vous êtes maintenant au Maniema. Donc toutes les routes étaient rendues praticables sans que le gouvernement m'ait donné de l'argent.
Mais c'est ça avec votre argent ou avec l'argent de la province?
Je dois vous dire pratiquement que je ne fais pas avec de l'argent. Je travaille avec la population seulement. Parce que je me suis rappelé de mon temps, les routes, c'était les villageois qui le faisaient. L'État pouvait donner un petit rien. Nous avons, même aujourd'hui on peut faire, nous avons des capitales dans les villages. Nous avons des chefs de groupement. Nous avons des chefs de secteur. Nous avons des chefs de sucrerie. C'est question de savoir travailler avec ces gens-là, de leur donner du travail pour dire, voilà, les routes là-bas, c'est vous qui devez les réparer. Les maisons état, il faut les arranger. Ils vont le faire, ils sont de bonne volonté. Mais si maintenant, vous prenez ces gens-là pour qu'ils puissent faire la politique, hein, je suis autorité, vous êtes chef là-bas, vous devez maintenant vous occuper de mon parti, alors ça ne va pas.
C'est difficile.
Oui, ça ne va pas. Sinon, ces gens-là sont là, ils peuvent faire les routes, ils peuvent arranger des ponts, ils peuvent construire des maisons pour la santé, etc.
Alors, M. Constantin Chalamwana, vous êtes satisfait de votre passage sur la territoriale?
Oui, je suis satisfait non seulement de mon passage, parce que grâce à la territoriale, je connais le Congo. J'étais un peu partout. Je ne connais pas une province où je n'ai pas été. Si je n'ai pas été là comme gouverneur, mais j'ai été là peut-être pendant une semaine ou deux semaines en visite de travail. Voilà. Et ça m'a permis de prendre contact avec la population du lieu pour que je puisse connaître ces gens-là. Donc, tu connais le Congo.
Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien, M. Constantin Chalamwana. Aujourd'hui, vous faites partie d'un parti politique de la majorité. En 2006, vous avez été candidat à la députation, mais malheureusement, ça n'a pas marché pour vous. En 2011, quelles sont vos ambitions pour cette année? Vous allez vous représenter?
Mes ambitions restent toujours les mêmes, hein. Reste toujours le même. Ça dépend aussi de mon parti. Ça dépend de mon parti. Peut-être si mon parti estime que je peux me représenter comme député ou comme sénateur ou je ne sais pas à quel poste le parti estime que je peux rendre service au pays, bon, j'accepterai. Je ne veux pas dire que c'est moi qui décide de faire ceci, non, je dépends du parti.
Alors, un mot de la fin avant de nous séparer, qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment sur Radio Capitale?
Bon, ce que je peux moi dire aux Congolais, ce pays nous appartient, ce pays est à nous tous. Nous ne pouvons pas dire, ah, écoutez, moi je suis là, tout c'est le gouvernement qui doit faire. Non, le gouvernement a des obligations, c'est vrai, qui doit assumer. Mais nous aussi, nous devons travailler pour notre pays. Je parlais des routes ici. Les routes du village, qui vont d'un village à l'autre, il ne faut pas que ce soit nécessairement le gouvernement qui vient faire ce travail-là. Nous pouvons travailler aussi, nous pouvons aider aussi le gouvernement. Donc, moi, je demande à nos frères et à nos sœurs que travaillons tous avec le gouvernement. Ce que nous pouvons faire pour que notre pays connaisse un développement, faisons-le, n'attendons pas simplement que le gouvernement le fasse. Et au gouvernement, bien sûr, je dis, il doit savoir qu'il est le premier responsable. Hein. Le développement, il doit aussi faire ce que la population lui demande de faire.
Monsieur Constantin Chalamwana, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'est la fin de cette émission. Grand que moi, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Constantin Chalamwana. Il est en politique, ancien gouverneur, ancien ministre. Merci à Jean-Noël Mokondo, qui est à la technique. Kelly Kouté vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radiookapi.net. Continuez le programme sur la fréquence de la paix. Thank you.